Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les différentes races d'hommes et la variété des différentes régions du monde et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et le faites lire, car vous y trouverez toutes les grandissimes merveilles que Messire Marco Polo, sage et noble citoyen de Venise, décrit parce qu'il les a vus de ses propres yeux. Ainsi s'ouvre le devisement du monde, encore appelé Livre des Merveilles ou Il Milione, à la manière d'un boniment de foire, vous l'avez compris. Joli boniment, vous savez, entrez, mesdames et messieurs, entrez et vous verrez les grands serpents du pays de Caragian, aux corps aussi gros qu'un tonneau, qui peuvent engloutir un homme d'un seul coup de mâchoire. Vous y verrez les cynocéphales d'Agamon, des hommes à tête de chien, et les peuples de Gog et Magog, et les cyclopes, hommes sans tête, qui ont des yeux sur les épaules et deux trous sur la poitrine en guise de nez et de bouche. Vous commencez à comprendre, en vérité, le livre des merveilles porte bien son nom, et ce serait passé à côté que de négliger cette dimension fabuleuse qui l'apparente absolument à toute la littérature fantastique d'un Moyen-Âge propice aux chimères, un Moyen-Âge commerçant qui rêve avant tout de richesse. Comme le dit joliment Monsieur Jacques Le Goff, à ce rêve de richesse est lié un rêve d'exubérance fantastique. Alors vous allez me dire, on ne parle pas beaucoup de Chine là-dedans, ni du Grand Khan, ni des caravanes chargées de soie, d'épices et de porcelaine. Patience, nous y venons, ou plutôt, nous y allons. Nous allons partir pour le Cathay dans les bagages de la famille Polo. Nous allons l'emprunter, cette route de la soie qui doit son nom tout à fait récent, du reste, au géographe allemand Ferdinand von Richthofen. Avant cela, j'aimerais, selon ma bonne habitude, resituer l'Odyssée polienne, si j'ose le terme, dans son contexte. Ce contexte, c'est la poussée vers l'est des comptoirs marchands occidentaux, poussée consécutive au sac de Constantinople par les croisés, et notamment les croisés vénitiens en 1204. Quand vous avez compris ce contexte, alors vous avez la clé. Parce que, n'en déplaise à nos imaginaires incurablement romantiques, Messire Marco Polo ne s'est pas réveillé comme ça un beau matin avec l'idée de partir pour le Cathay. Il y avait du monde avant le Cathay, la Chine à l'époque, hein, bien sûr. Il y avait du monde avant lui. Il était fils et petit-fils de négociants vénitiens qui s'étaient spécialisés dans le commerce avec l'Orient. Il y a une chose qu'on ne dit jamais à son propos, mais qui est fondamentale, c'est que le grand-père de Marco faisait partie de ces Vénitiens qui avaient fait fortune à Constantinople en faisant main basse sur le commerce avec l'Orient. Et quand les Byzantins ont chassé peu à peu les Vénitiens, il a dû se réinstaller dans la cité mère, à Venise, avec le peu de biens qu'il avait sauvés, c'est-à-dire trois fois rien. Et pour cette raison, ses deux fils, Niccolo et Matteo Polo, ont dû quitter leur foyer et voyager vers l'Orient pour retisser tout leur réseau commercial. Ils n'avaient pas le choix, c'était leur planche de salut. Quand Niccolo a quitté Venise en 1260, sa femme était enceinte d'un fils qui est né après son départ. Ce fils, vous l'avez compris, se prénommait Marco Polo. Pendant toute son enfance, ce gamin a grandi dans l'idée de son père et de son oncle qui allaient revenir, espérait-on, d'une semaine à l'autre pour rendre à la famille sa fortune d'hier et lui offrir à lui, Marco, les moyens de devenir un riche, un grand citoyen de Venise. Comprenez bien que la famille restée sur place n'avait aucun moyen d'obtenir des nouvelles des deux voyageurs. Marco en était réduit à les imaginer dans des contrées merveilleuses, pleines de richesses et de bon génie. Or, Marco et les siens ne vont pas attendre les voyageurs 5 ans ou même 10 ans. Niccolo et Matteo vont rester absents de chez eux 15 années durant. Mais pourquoi diable un voyage qui s'éternise à ce point? C'est là qu'interviennent le hasard et la chance. Après plusieurs années de pérégrination à travers les montagnes et les déserts, courant d'étape en étape sur la route de la soie, les deux Vénitiens ont fini par rétablir une bonne part de leur fortune à la cour des Tartares de Mongolie. Malheureusement pour eux, ils rencontrent là-bas l'ambassadeur du grand Khan, c'est-à-dire le chef mongol qui est à l'époque empereur de Chine, et ce dernier se montre, un peu trop attentionné à leur égard. Il tient absolument à les présenter à son maître, à l'illustre Koublaï. Il y a des invitations qui ne se refusent pas, surtout quand celui qui invite se déplace partout avec 200 ou 250 guerriers redoutables. Nicolo et son frère se disent qu'après tout, ce grand détour par le sud-est va leur permettre d'échapper aux guerres dangereuses qui se livrent dans les steppes de l'ouest, des guerres entre tribus mongoles nettement moins civilisées. Il n'empêche, c'est un sale coup pour eux. Ils venaient de faire de très bonnes affaires, ils s'apprêtaient à reprendre le chemin de leur foyer et voilà que leur famille, qui végète pendant ce temps à Venise, va devoir patienter et patienter encore. Or, ce qui pouvait passer pour une calamité va très vite se révéler être la plus belle opportunité commerciale du siècle. En effet, le grand Koublaï Khan se montre généreux avec nos deux aventuriers occidentaux, les premiers sans doute qu'il ait jamais vus, et il leur propose de leur confier le monopole de toutes les transactions entre la Chine et la chrétienté. Nicolo et Matteo ont la tête qui tourne, ils se voient déjà richissimes, ils se voient doges de Venise pour 5 générations. Seulement le grand Khan demande en échange un service à ses nouveaux protégés. Il leur confie une lettre pour le pape, une lettre qui demande au souverain pontife de lui envoyer par leur biais une 100aine de savants et d'artistes pouvant illustrer à ses yeux l'empire des chrétiens. C'est cette lettre en poche que les deux frères vont faire retour vers Venise. Ils n'ont plus qu'une obsession à ce moment-là, brûler les étapes sur le chemin qui doit les ramener à leur foyer. Et voilà comment Marco, qui maintenant a donc 15 ans bon poids, voilà comment Marco découvre enfin son père et son oncle. Et quand il les voit arriver, bien sûr qu'il ne les reconnaît pas, il ne les a jamais vus. Mais surtout, il est stupéfait, car ce ne sont pas des Vénitiens qu'il a sous les yeux, ce sont des Chinois.
Ennio Morricone, c'est un extrait de la bande originale de la série télévisée, Franck.
Oui, cette série de Giuliano Montaldo, c'est au tout début des années 80. Et pour les gens de ma génération, on peut dire que ça a été marquant. Ça nous a tous marqués au fer rouge, cette aventure extraordinaire d'un Marco Polo qui s'en allait à la conquête de l'Extrême-Orient. Alors effectivement, Nicolo et Matteo vont emmener Marco avec eux. Ils repartent donc. Alors à Saint-Jean-d'Acre, ils sont reçus par le cardinal Léga. Le pape est mort à ce moment-là, ça tombe mal, hein, donc ils ne peuvent pas répondre exactement à la demande qu'avait formulée le grand Khan, mais quand même le cardinal leur confie une lettre pour le Khan. Ils reprennent alors la route en direction de Jérusalem, et là, grande nouvelle, ce fameux cardinal entre-temps a été élu par le conclave, il est devenu le pape Grégoire X. Alors ça va changer un peu le statut des émissaires en Orient. Néanmoins, le pape ne leur confie pas pour autant 100 artistes. Il leur confie seulement 2 dominicains. C'est pas tout à fait la même chose. Les voilà repartis. Ils prennent par le nord. Nos trois voyageurs empruntent la plus septentrionale de ce qu'on appellera les routes de la soie. Il leur faut traverser des montagnes, un terrible désert. Il leur faut affronter les autochtones. On n'imagine pas ce que peut être ce périple de 2 ans jusqu'aux portes du Katai. 2 ans, ça veut dire qu'au moment où Marco arrive en Chine, il est presque un homme. Ils sont arrivés par Karakorum, au nord-est de la Chine. Ils s'installent à Kancheu. Là, Marco nous dit qu'il apprend la langue et les coutumes. Il a 1 an pour le faire, car au printemps 1275, un envoyé de l'empereur Bannière au Vent vient les chercher, les conduit jusqu'à Changtu, qui est la résidence d'été de l'empereur. Là-bas, Marco est évidemment très impressionné par un protocole inouï, mais il est peut-être plus impressionné encore par la bonté particulière dont le grand Khan fait preuve à l'égard des voyageurs, et notamment à son propre égard. Le jeune Marco Polo, si vous voulez, est un peu le joker qu'ont apporté Nicolo et Matteo. vidéo pour faire oublier l'absence des 100 artistes demandés. L'empereur va mettre le jeune homme à l'épreuve. Les polos suivent Kublai à Kanbalik, la cité du Khan, donc à Pékin, si vous préférez, jusqu'à la cité interdite. Marco est admis parmi les fonctionnaires, ce qui ne va pas manquer de créer quelques jalousies. On est là à l'heure des grandes missions. La première qu'il effectue, nous dit-il, c'est au Yunnan, chez un des fils de l'empereur, qui se trouve être le vice-roi de cette très riche province méridionale du Yunnan. Et puis au cours de ses missions, eh bien, Marco va traverser de nombreuses villes, va découvrir des ports, évidemment, et il prend toutes sortes de notes. Il est fasciné par l'importance des ports chinois, par l'organisation du Grand Canal impérial. Il découvre à profusion ces ingrédients que sont le poivre, la cannelle, la muscade, le gingembre, la girofle, etc., tellement rare en Europe, il est d'autant plus impressionné que tout cela, bien entendu, lui est fourni à foison. Et puis il va faire des découvertes incroyables, le courrier, le charbon, le papier monnaie, j'en passe, et des meilleurs. Au cours des 20 années que Marco Polo va passer en Chine, il se familiarise avec ce qui est un tout autre univers. Nous allons dans un instant, avec nos invités, revivre cet extraordinaire séjour d'un Européen, d'un Vénitien, en Chine à la fin du XIIIe siècle. Il est à la cour du grand Mongol, vous l'avez compris, il est à la cour de Kublai Khan.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Olivier Germain-Thomas, qui est écrivain voyageur. Il parcourt les routes d'Asie depuis plusieurs années. Il est l'auteur de Marco Polo, une folio-biographie chez Gallimard. Et Pierre Racine, qui est professeur honoraire des universités. Il a écrit quant à lui Marco Polo et ses voyages, et c'est chez Perrin. Et
le professeur Racine est membre de l'Institut Lombard. Cette biographie vient de paraître chez Perrin. Merci Pierre Racine d'être des nôtres. Merci Olivier Germain-Thomas. Deux biographies pour ce personnage dont on peut dire qu'il n'a jamais finalement quitté le devant de la scène. Il a été une sorte de héros pour des dizaines de générations. C'est tout à fait extraordinaire. Ça a commencé du reste très tôt. Nous reviendrons, si vous le voulez, dans la dernière partie de cette émission, sur l'incroyable fortune de cet ouvrage, de ce devisement du monde que les Vénitiens avaient surnommé Il Milione, parce qu'il est forcément, et selon la coutume de cette littérature fantastique médiévale, plein d'exagérations, plein de millions de choses et de merveilles. Ce que j'aimerais avant tout, c'est que nous essayions de cerner quelle était la position de Marco Polo à la cour de Kublai Khan, Pierre Racine? Était-il un conseiller? Était-il un protégé? Était-il un simple fonctionnaire? Qu'en dit-il d'abord lui-même?
Alors, il faut toujours se méfier de ce que dit Marco Polo lui-même, car il exagère très souvent les fonctions qu'il a remplies. Mais tout de même, si l'on regarde notamment tout ce que rapporte Georges Pautier dans son livre sur justement la publication du texte de Marco Polo, lorsque on regarde également tout ce que Paul Pelliot a ramassé sur Marco Polo, et lorsqu'on voit aussi, mais là je ne connais pas le chinois personnellement, mais nous avons tout de même maintenant des collègues chinois qui s'intéressent à Marco Polo et qui nous disent que effectivement Marco Polo n'est pas tout à fait ignoré des récits de chroniques de la Chine de cette époque. Alors qu'est-ce qu'il a rempli comme fonction? Je crois que le plus proche de ceux qui l'ont décrit, c'est certainement Paul Pelliot, lorsqu'il le prend pour un espèce d'inspecteur général des finances et surtout de la gabelle, surtout autrement dit de l'impôt sur le sel. Il a certainement rempli plusieurs missions, notamment lorsqu'il va dans une ville où il reste pendant 3 ans, puis surtout ce qu'il nous dit de Kwinsai, et où véritablement il a ramassé un ensemble d'informations extraordinaires sur l'activité à Kwinsai, et on peut donc dire qu'il a certainement rempli des fonctions financières, des fonctions Disons un peu comme chez nous, les inspecteurs généraux des finances.
Alors après tout, il était fils de marchand. Il était donc né dans ce monde du commerce, de la finance, des transactions. Il connaissait ça, mais il le connaissait d'un point de vue occidental, bien entendu.
Occidental.
Comment ce fils de marchand vénitien peut-il devenir un des fonctionnaires du grand khan, Olivier Germain Thomas?
Alors le voyage dure 4 ans. Pendant ces 4 années, il a appris très probablement le turc, le ouïghour et le mongol. Et en plus, il a observé les peuples.
Mais vous êtes en train de nous dire que c'est un surdoué tout de même.
C'est sûrement...
Il apprend très vite les langues, il se familiarise très vite au nouveau système qu'il découvre.
C'est une époque où chaque lettré connaissait le latin, le toscan, le vénitien et le français. Il connaissait le français du XIIIe siècle, qui était la langue littéraire de l'époque. Donc je pense que ça fait partie aussi de la manière dont les cerveaux fonctionnaient à l'époque. Mais certainement, il est très doué. Et bien évidemment, là, M. Racine a dit tout ce qu'il fallait dire sur les responsabilités qu'il a eues. Il y a deux choses qui m'ont passionné quand je me suis penché sur ce destin. C'est les relations qu'ils ont pu avoir, et là, il faut faire œuvre d'imagination seulement, entre cet empereur, un homme, on le voit à travers les portraits, qui est un homme extrêmement madré, puissant, jouisseur. C'est le plus grand empire du monde, qui va de la Corée
actuelle jusqu'à la Turquie. C'est l'un des hommes les plus puissants de la planète.
C'est l'homme le plus puissant, qui ne voyage pas beaucoup, qui est très malin d'après son regard.
On parle de Kublai Khan, je
précise. Et qui s'attache à ce jeune garçon, qui est tout jeune quand il arrive. Et ce lien, qui était le lien de l'époque entre un seigneur et un chevalier, en quelque sorte, et qui l'adoube pour, effectivement, les missions commerciales, mais aussi des missions d'information. Parce qu'il se trouve que Kublai Khan ne voyageait pas beaucoup. En plus, il n'était pas aimé, c'est un Mongol. Il n'était pas aimé du tout des Chinois. Et Marco Polo a pu se glisser à la fois dans l'Empire de Chine, qui était la possession des Mongols, mais il est allé en Birmanie, il est allé à Sumatra, il l'appelle Java, mais il est allé à Sumatra, il est allé probablement au Cambodge, au Vietnam, il n'est pas allé au Japon, contrairement à ce qu'il raconte. Il est allé presque partout dans l'Empire, et il revenait avec des récits qui étaient sûrement très utiles pour l'empereur, qui se méfiait énormément des Chinois.
Et des récits qui vont ensuite être transposés, mais ce sera bien plus tard, dans une geôle génoise, on y viendra transposer pour donner naissance à ce livre fondateur qu'est le Devisement du Monde. On est donc à l'époque, on est en Chine dans ce qu'on appelle l'ère Yuan, c'est-à-dire l'ère mongole. Il faut peut-être expliquer, l'empire chinois est extrêmement développé, organisé à cette époque, mais ceux qui le contrôlent ne sont pas des Han, ne sont pas des Chinois de souche. C'est une période un peu particulière et un peu complexe à comprendre, Pierre Racine.
Oui, effectivement, parce qu'il faut bien voir qu'il y a d'abord deux Chines. Il y a le Cathay, c'est la Chine du Nord. Et là, les Mongols se sont installés, se sont sinisés, je dirais. Mm-hmm. Ils ont véritablement repris à leur compte un certain nombre d'éléments de la civilisation de ce pays.
Pour plagier un de nos grands historiens, je dirais que la Chine vaincue est vainqueur de son fier vainqueur.
Bon. Exactement. Mais alors, le problème, c'est le Manji, c'est-à-dire le sud. Et le sud de la Chine, c'est une région colonisée par les Mongols et... Marco Polo s'y conduit exactement comme le dominateur et celui qui doit informer son Khan de tout ce qui se passe dans cette région du Manji qui est alors en pleine transformation à travers justement ce que les Mongols voudraient en faire. Mais c'est une région très riche où se trouvent les grands ports qui sont en relation avec l'Inde et où se fait un trafic que décrit d'ailleurs fort bien Marco Polo et qui montre bien que nous sommes là dans une des grandes zones actives de l'Asie et du monde de l'époque, car il ne faut pas oublier que nous sommes à un moment où on peut déjà parler de mondialisation, car désormais il y a une histoire eurasiatique et il y a une histoire du monde connu de cette époque, et une histoire qui montre que dans le cadre de ces relations entre Orient et Occident, il n'est plus question de peuple du Gog et Magog, mais il est question de peuple dont on découvre véritablement une civilisation nouvelle que décrit Marco Polo pour les gens d'Occident.
Oui, ce sont des horizons totalement inédit et inimaginable, bien entendu. Alors à quoi ressemblait Marco Polo, Je vous ai dit qu'il arrivait en Chine, il a environ 17 ou presque 18 ans. Nous ne possédons, nous dit Olivier Germain Thomas, aucun portrait fiable de lui. Et pour cause, on est donc au XIIIe siècle. Hein. Ceux qui sont censés le représenter datent des époques où il était devenu un personnage de légende. Il est alors coiffé et vêtu d'un costume mongol. Il porte un arc, des flèches et un sabre. L'aspect est noble. Le visage couvert d'une barbe est énergique, celui d'un combattant au regard vif qui a gardé des traits européens malgré son accoutrement. Enfin, tout ça, ça reste imaginaire, Olivier Germain Thomas.
Il faut beaucoup d'imagination pour suivre Marco Polo. Et naturellement, quand on veut faire un livre d'histoire, ce qui est votre cas, monsieur, et ce qui a été mon cas, moi je suis resté très fidèle quand même aux sources historiques, on est obligé sans cesse de se retenir. Par exemple, quand à un moment donné, il dit dans son livre, ben voilà, pendant un an, je me suis arrêté et cela ne vaut pas la peine de raconter pourquoi. Alors à ce moment-là, on a envie, ce que je fais, mais je dis au lecteur effectivement que c'est de la pure imagination, on a envie d'inventer une histoire un peu galante, puisque, rappelons-le, au cours de son voyage, Marco Polo observe avec les attentions d'un jeune homme de 20 ans, qu'on imagine, les mœurs locales, et notamment dans les régions sous influence tibétaine, ou les régions où la femme était très puissante, les régions où les voyageurs offrent leur propre épouse aux étrangers. Il raconte tout cela d'une manière très plaisante, tout en disant, naturellement, ce sont des mœurs qu'il ne faut pas suivre. Mais donc, on imagine un Marco Polo quand même porté par une puissance vitale. Et pendant un an, rien ne se passe. Allons, il s'est sûrement passé quelque chose. Alors, on a envie de remplir les blancs.
Eh oui, forcément, ils sont déjà chargés en partie. Il faut beaucoup d'imagination pour suivre Marco Polo, nous dites-vous. Quelle est la part du réel et celle de l'imaginaire? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Franck qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à un personnage de légende, fils, petit-fils de négociant vénitien. Il s'agit de Marco Polo.
Voilà, alors il est temps de semer un peu le trouble dans cette assemblée beaucoup trop harmonieuse. Celle par qui le scandale arrive s'appelle Frances Wood. Elle a dirigé le département de sinologie de la British Library à Londres. Or, Mrs. Wood est allée très loin, pour tout vous dire. Sans aucun ménagement pour notre confort intellectuel, elle a affirmé à deux reprises, et à qui voulait l'entendre, que jamais, au grand jamais, Messire Marco n'avait mis les pieds en Chine. L'ouvrage n'a jamais été traduit en français, ce qui est incroyable, entre parenthèses, avis aux éditeurs. Ça s'appelle en anglais « Did Marco Polo go to China ?» Il n'a probablement jamais voyagé beaucoup plus loin que les portes du commerce familial sur la mer Noire et à Constantinople, dit Mrs. Wood. Elle observe que, bien entendu, Marco Polo a une existence historique absolument incontestable. Les archives vénitiennes, nous dit-elle, possèdent plus de 50 documents relatifs à l'histoire familiale. On possède aussi, bien sûr, et ça on le sait, son testament. Ce qui pose problème, selon elle, ce qui aurait posé problème, parce qu'il faut vous dire que Mme Wood est revenue sur ses propres déclarations. Il y a eu une sorte de palinodie dans cette affaire qui est assez stupéfiante. Ce qui aurait posé problème, donc, c'est que ce que nous raconte Marco Polo est sujet... évidemment, à caution. Et ça, aucun de nos deux invités d'aujourd'hui n'en disconvient. Ils l'ont dit l'un et l'autre. Il y a d'abord beaucoup d'exagérations. Ça, c'est le million. Et vous savez, Marco Polo parle de 10 000 fauconniers à la cour de Kublai Khan, de 20 000 valets de chiens, de 40 000 invités aux banquets impériaux, etc. C'est son côté un petit peu tartarin. Vous savez que les écoliers britanniques, lorsqu'ils veulent parler d'un enfant qui exagère, disent « Oh, it's a Marco Polo ». Là-bas, ça fait partie. Bon, c'est d'entrer dans le langage. Voilà. Et puis il y a aussi, et ça c'est plus étonnant, des erreurs. Marco Polo prétend avoir construit des machines de guerre pour la victoire des Mongols sur Xiangyang. Or ça a eu lieu en 1273, c'est-à-dire plus d'un an avant l'arrivée des Polo. Il décrit les toits dorés des palais. Il se trouve que les toits dorés c'était au Japon et pas en Chine. Enfin et surtout, il y a les fameuses omissions. Marco Polo, c'est vrai, ne parle jamais des femmes aux petits pieds. Il ne parle quasiment pas de l'imprimerie et pas du tout de la calligraphie. Il ne parle pas du tout du thé ni des baguettes. Il ne parle pas du tout de la grande muraille de Chine. Alors, est-ce possible ? Eh bien oui, c'est possible, répond le professeur John Larner, qui lui aussi est britannique. C'est possible car, nous dit ce professeur, les femmes aux petits pieds vivaient recluses. L'imprimerie et la calligraphie étaient des occupations de mandarins auxquelles probablement Marco n'avait jamais eu accès. Le thé était servi essentiellement dans le sud. Quant aux baguettes, leur usage n'était pas encore généralisé chez les Mongols. Et pour ce qui est de la Grande Muraille, elle était à l'époque en grande partie écroulée. Elle n'a été reconstruite pour donner l'aspect que nous connaissons aujourd'hui qu'à partir du XVIe siècle. tout de même, c'est un petit peu étonnant que les archives chinoises... Alors, le professeur Racine nous disait à l'instant qu'il y aurait quelques traces, on va y revenir d'ailleurs, du passage des polos en Chine, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les archives chinoises ne s'étendent guère sur cette mission et sur ce séjour des polos en Chine. Concentrons-nous sur les archives occidentales, répondent les défenseurs d'un Marco Polo digne de foi. Bah, disons que ça n'est pas beaucoup mieux. Si le pape Grégoire X avait, comme l'affirme le Livre des Merveilles, adressé une missive au Grand Khan, les archives du Vatican forcément en conserveraient une trace. Or, cette trace, on ne la trouve nulle part. Faut-il donc conclure, après Mrs. Wood, que Marco Polo n'est jamais allé en Chine, vous vous doutez bien que je vais me faire un plaisir de poser la question à nos invités dans un instant.
De la bande originale du film La fabuleuse aventure de Marco Polo, l'extrait s'intitule Samarcande, Franck.
Oui, on est sur la route de la soie, oui, et dans cet univers, évidemment. Pierre Racine est donc auteur chez Perrin de Marco Polo et ses voyages, et je ne peux me priver du plaisir de lui poser cette question. Quid des conclusions de Mrs. Wood? Est-ce que, d'après vous, Marco Polo est bien allé jusqu'en Chine, ou est-ce qu'il s'est contenté de recueillir les témoignages des voyageurs qui circulait autour de la mer Noire à l'époque?
Alors, en ce qui concerne son voyage en Chine, il y a tout de même d'abord un premier point que nous pouvons mettre en avant, c'est que un de ceux qui a fait le voyage de Chine après lui, moi je maintiens qu'il l'a fait, après lui, c'est-à-dire Odorico da Pordenone,
oui, tout à fait,
franciscain, qui fait le voyage en sens inverse, non pas la même route que Marco Polo, il a retrouvé exactement tous ces éléments que Marco Polo décrit. Il en ajoute d'autres, comme par exemple les cormorans qui viennent pêcher, comme par exemple surtout les fameuses chinoises avec les pieds fins. Mm-hmm. Ça, c'est dans Odorico. Mais il ne faut pas oublier que quand Marco Polo voyage, comme un mongol. Il loge en maison mongole, notamment dans des palais.
C'est pour ça qu'il faut bien insister sur cette civilisation particulière, cette période mongole.
Oui, c'est une période où, véritablement...
Il y a une forme d'occupation, disons-le.
C'est une occupation. Le Manji est sous occupation mongole.
C'est-à-dire tout le sud du pays.
Tout le sud du pays, c'est-à-dire le sud du Yangtze-Kiang, grossièrement, du fleuve 2. Et cela veut dire que Marco Polo, donc, ne connaît presque rien, véritablement, de la civilisation chinoise. J'ai retrouvé, d'autre part, des textes d'historiens chinois, qui écrivent évidemment en langue occidentale, c'est-à-dire la plupart d'entre eux en langue anglaise. Et les historiens chinois, historiens et sociologues chinois, affirment bien la présence de Marco Polo en Chine, malgré tous les arguments de Frances Wood, malgré tout ce qu'elle peut dire contre Marco Polo, si je puis dire.
Contre sa présence en Chine, en tout cas.
Contre sa présence. Et il est bien certain que ce que Marco Polo n'a pas pu révéler de la muraille de Chine, c'est qu'elle n'existait quasiment plus, d'une part. Il est bien certain aussi que pour un certain nombre d'usages que Marco Polo n'a pas pu connaître, il ne pouvait pas s'avancer. N'oubliez pas que le thé ne devient véritablement une boisson connue des Européens qu'à la période moderne, que jusque, autrement dit, au XVIIe siècle, le thé est une boisson inconnue des Occidentaux et qui était parfaitement inconnu des usages mongols, qui en étaient encore à la vieille tradition du koumis et autres produits qui étaient parmi ceux que consommaient les Mongols. Et Marco Polo connaissait strictement la nourriture mongole.
Alors, au-delà de Marco, merci pour ces réponses très, très précises, professeur. Au-delà de Marco Polo lui-même, il y a un personnage dont il faut que nous parlions, c'est Rustichello de Pise, car cet ouvrage, ce livre des merveilles, il est bien écrit, si j'ose dire, à quatre mains, et même, il est même écrit de la plume de Rustichello. Donc, c'est un travail sur la source que je vous propose de faire maintenant. Nous allons voir quelle a été la genèse, mais aussi quelle a été l'incroyable postérité de cet ouvrage fondateur.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
J'ai fait claquer comme un drapeau le nom de Marco Polo. J'ai vu les roses disparaître et les 2000 mystères au brillant contenu de diamants.
Luis Mariano sur Europe 1 avec un extrait de l'opérette Le Secret de Marco Polo.
Tout le monde se balance à régie,
en
studio.
Régie, en studio, tout le monde.
Un de nos auditeurs nous dit, si je vous comprends bien, Marco Polo était au moins aussi marseillais que vénitien. Oui, il y avait ce côté un peu exagération forcément. On ne sait pas tout sur Marco Polo. Son premier biographe, Ramuzio, écrit 2 siècles après sa mort, donc c'est toujours un peu difficile. Ce que l'on sait, c'est qu'une fois rentré et reçu plutôt fraîchement, semble-t-il, par la République de Venise, il va armer une galère pour s'imposer comme capitaine dans le conflit qui oppose la Sérénissime aux Génois. En fait, derrière Gênes, il y a Constantinople. Vous voyez qu'on n'en sort pas de cette situation géostratégique de l'époque, hein, le rapport entre les deux puissances maritimes de la Méditerranée, entre Constantinople et Venise, une lutte d'hégémonie pour le contrôle de la vieille mer, du Mare Nostrum. Le 7 septembre 1298, on est à la charnière du siècle, a lieu la bataille navale de Curzola, au cours de laquelle les Vénitiens sont battus. C'est alors que Marco est fait prisonnier, conduit à Gênes, et c'est là, Olivier Germain Thomas, qu'il va rencontrer celui par lequel il nous est aujourd'hui connu. Sinon, on ne parlerait peut-être même pas de Marco Polo.
Alors, Rustichello da Pisa était un écrivain très prolixe qui aimait les romans d'aventure amoureux de l'époque et qui écrivait dans le français du XIIIe siècle.
Oui.
Et il se trouve, donc on ne sait pas exactement quand Marco Polo était prisonnier ni dans quelles circonstances. Il reste des énigmes, tant mieux. Mais il se trouve que l'un et l'autre vont se retrouver dans la même cellule. Et on imagine Marco Polo racontant probablement aux Vénitiens ou en Toscan son histoire, et Rustichello se disant « Mais alors là, c'est un sujet formidable !» Et à ce moment-là, c'est Rustichello qui tient la plume, et peut-être, on peut dire ça, parce que moi j'aime beaucoup Marco, donc j'ai envie de dire que les exagérations viennent plutôt de Rustichello que de Marco Polo. Mais on n'en sait rien subjectivement.
On n'en sait rien. Pour ce qui pourrait vous donner raison, c'est qu'on connaît tout le reste de l'œuvre de ce Rustichello de Pise, et que l'on sait qu'il a beaucoup donné dans le roman fantastique, dans le récit de chevalerie, dans lequel interviennent des créatures chimériques, etc.
C'était sa spécialité.
Oui. Il est possible que sur le récit relativement classique de Marco Polo, il soit venu broder, lui, sa fantasmagorie.
C'est un travail que les historiens essaient de faire en disant ici, ce serait plutôt du Marco Polo, là, du Rustichello.
C'est toujours dangereux, mais ce genre de départ, évidemment.
On n'en sait rien. Mais quelque part, il est dit que Marco Polo serait revenu avec des petits carnets. Alors je lance une piste dans un souterrain de Venise. Ces petits carnets sont gardés dans un coffret. Allez-y vite. Et quand vous aurez trouvé, écrit en vénitien, probablement les petits carnets que Marco Polo tenait en Chine, on aura le vrai récit à partir de ce moment. Mais bon, à défaut, on prend le texte tel qu'il est, le devisement du monde, et on essaie, avec un peu de bon sens, de faire la part entre ce qui est exagération et ce qui est témoignage ethnologique, extrêmement précis, extrêmement sérieux, qui n'ont pas pu être inventés par Rustichello et qui viennent incontestablement de Marco Polo.
Ce qui est extraordinaire avec cet ouvrage, avec cet écrit, c'est qu'il va contribuer considérablement à la formation de l'état d'esprit même d'un Occident ouvert, conquérant, dynamique. La pensée créatrice, n'est-ce pas? Les grandes réalités naissent toujours du rêve. 170 ans après la mort de Marco Polo, il est mort donc à Venise vers 1325, quand Christophe Colomb s'est approché du continent américain, il avait à la main un ouvrage qui ne le quittait jamais et qui avait nourri ses ambitions aventurières et conquérantes, c'était le devisement du monde. On a envie de dire quel plus bel hommage trouvé. Certes, ajoute Pierre Racine, Colomb ne s'est pas entièrement appuyé pour ses divers voyages sur le livre de Marco Polo, mais le devisement du monde a bien eu sa part de responsabilité dans ce que croyait avoir atteint le voyageur génois. Il y a comme ça une sorte de transmission de relais de la part de Marco Polo à Christophe Colomb et à tous ceux qui, par la suite, iront courir le monde, Pierre Racine ?
Oui, il y a une transmission qui s'est faite progressivement. Progressivement, d'abord par l'exécution d'un certain nombre de cartes qui ont été l'objet de l'école de Majorque, qui a inclus le paysage asiatique dans le cadre de la connaissance de l'Asie pour les Occidentaux. Et puis il y a alors tous ces voyages plus ou moins imaginés, comme celui de Jean de Mandeville, qui est un voyage extrêmement important du XIVe siècle. Il y a aussi tout ce qu'apportent les connaissances scientifiques nouvelles que l'on voit paraître, notamment dans la période du début du XVe siècle, avec la connaissance nouvelle qui vient de divers savants d'Occident quant à la compréhension de la Terre. Et puis, il y a ce texte, alors, qui a été sans doute un des éléments de base de la formation de Christophe Colomb, la traduction latine du texte de Marco Polo, traduction latine par un dominicain qui a ajouté ses commentaires à l'occasion, mais qui tout de même a inspiré Christophe Colomb pour aller vers l'Ouest, voyage qui était déjà préparé par les Génois.
Merci beaucoup Pierre Racine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Marco Polo et ses voyages, c'est édité chez Perrin et par Olivier Germain-Thomas. Marco Polo, c'est une biographie inédite chez Folio. J'aurais bien aimé citer Italo Calvino et ses villes invisibles, ce sera pour une autre fois. Ça nous ramenait à Venise, mais on sait bien après tout que tous les chemins mènent à Venise. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de politique, mais nous allons surtout parler de politique en famille. Ouh, parfois ça dérape, on parle trop fort. Mais comment parler justement de politique à nos enfants ? Eh bien, c'est la question que se posent les experts Europe 1. À tout de suite.
Merci beaucoup, Elena. Et donc, nous nous retrouvons, nous, demain, Julia.
Avec grand plaisir et toujours sur Europe 1.
Bien sûr, bah oui, on ne va pas changer de radio du jour au lendemain. Comme
exactement.
Ça,
pourquoi ? Parce qu'on y est bien, finalement. 14h.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.